Puis là, pour commencer, un matin, je vais vous passer un preview. C'est un preview d'un film que j'ai mis sur le PowerPoint. Parce que le titre du message, ça va être « Le cœur de l'homme ». Puis je trouvais que ça représentait bien... Ben, le titre du film aussi, c'est « Le cœur de l'homme ». Fait que ça représentait bien le message que je voulais amener aussi en même temps.
À mes yeux, la meilleure solution qui s'offrait à moi quand je vivais dans l'obscurité était de tout garder pour moi. Car si personne n'était au courant, personne n'en souffrirait.
Un jour, j'ai compris que j'étais totalement perdu et que j'avais besoin de me faire aider. Certains d'entre nous sont trop brisés pour être capables de penser en dehors d'eux-mêmes. Il faut qu'on finisse par se faire attraper, d'une manière ou d'une autre. C'est une bénédiction à la fois belle et terrifiante.
C'était comme m'abandonner à une drogue. Je ressentais cet incroyable sentiment de culpabilité et de honte qui s'y rattachait, mais en même temps, je me sentais plané.
Je suis intimement persuadé que j'ai vraiment quelque chose qui cloche. J'ai toujours eu le sentiment que Dieu était légèrement écœuré par moi.
Savoir qu'il m'aimait ne m'aidait pas vraiment, parce qu'au bout du compte, il allait quand même finir par me juger.
Quoi que je fasse pour faire bonne figure ou paraître bien, pour faire ou dire ce qu'il fallait, la honte était toujours là pour me rappeler que j'étais mauvais. Et quand on est mauvais, Dieu ne nous aime pas. Il ne veut rien avoir à faire avec nous. Cet amour-là se mérite.
La honte est le sentiment qui guide mon comportement compulsif.
J'en étais pourtant esclave. C'est là que ça a fait tilt.
La luxure, c'est un désir devenu fou. Tous les hommes et les femmes sont concupiscents. Jusqu'à ce qu'un jour, nous comprenions que c'est une addiction qui va finir par nous tuer. Trop souvent, nous pensons que Dieu veut seulement que nous nous adaptions, alors que ce qu'il veut vraiment, c'est nous transformer intégralement. Si seulement nous pouvions pénétrer la profondeur de son amour, nos existences en seraient profondément transformées.
Quand le fils prodigue touche le fond, quelque chose peut pousser. Rien n'est vraiment mort si Dieu y insuffle la vie.
Le cœur de l'homme, ça c'est le titre du message, le cœur de l'homme. Ça, il y a plein de choses dans le preview que je trouvais vraiment intéressant. Là. Même au début, quand il commence, puis il disait que ça touchait personne d'autre que lui. Tu sais, quand on touche au péché dans nos cœurs, on touche à toutes nos familles, à tous nos entourages, ça joue avec tout le monde. Puis c'est comme quand il disait aussi dans le preview, quand il disait que ça tranquillement, ça nous amène à quelque part, puis ça va nous tuer. On s'en rend pas compte, mais ça nous amène loin. Le premier, j'ai mis ça. Je cherchais une image, mais je trouvais ça bon, parce que c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent toutes les pensées perverses. Des fois, on dit, c'est l'ennemi qui nous amène des tentations. C'est l'ennemi qui... Mais l'ennemi, des fois, on y en met dos, on y en met gros sur le dos, on y en met là. J'étais à côté sur le chou. Mais c'est nous autres qui est le plus dangereux. Ça vient de notre cœur, toutes ces choses-là. Puis il faut le savoir pour pouvoir mettre des barrières, puis mettre des blocages, puis faire le contraire, aller chercher les beautés du cœur de Dieu, puis les remplacer par ces affaires qui sont dangereuses, puis qui vont finir par nous tuer, que ce soit l'envie, la débauche, la méchanceté. Ça vient tout de notre cœur à nous autres. Tu peux mettre la première image, si tu veux. Le premier verset, je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, c'était le premier verset qu'elle a dit amener la semaine passée à son message. Ça dit « Mon cœur peut s'épuiser et mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. » Je trouvais ça bon parce que, tu sais, quand on dit « mon corps peut s'épuiser », ça veut dire qu'on peut se fatiguer. Si on essaye par nous-mêmes, là, si on ne s'appuie pas sur le rocher du chemin qui est notre Dieu, on va se fatiguer. Puis notre cœur, lui, il va défaillir parce que notre cœur, sans Dieu, notre cœur, il n'est pas beau. On a besoin de Dieu pour avoir un beau cœur. Puis je voulais ramener ce verset-là pour commencer. Parce que c'est, si on se souvient, ben, peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas là la semaine passée. Je pense que vous pouvez l'écouter sur Facebook. Dans ce temps-là, il est affiché sur Facebook, message. Mais il a dit dans son message la semaine passée qu'il fallait faire des efforts pour aller faire un eye contact avec Jésus. De tout le temps courir pour aller vers Jésus. On avait besoin de ça. C'est pas par nos propres forces. On avait besoin d'aller à Jésus. Tout le temps de se ramener à Jésus. Sans ça, on va se fatiguer. Un eye contact avec Jésus. C'était ça, son message, la semaine passée. Je ne sais pas s'il fait chaud. Hein? Pas vous autres, moi j'ai chaud. Hein? C'est en avant, il fait chaud. Hein? Seigneur Dieu, je te remets ce message, Seigneur Jésus. Utilise ma bouche pour amener le message de la manière que tu voudrais que je l'amène, Seigneur Dieu, puis mets des blocages sur les choses que tu ne voudrais pas que je dise, puis que ça sorte de la bonne manière, mon Dieu. Je te remercie, mon Dieu, parce que quand on va dans ta parole, on le sait que ça a un effet. On ne va pas dans ta parole sans que ça ait d'effet, puis quand on va dans ta parole, on veut y aller avec l'espérance puis l'espoir aussi qu'on va prendre ces vérités-là, puis ces trésors-là, puis on veut les vivre, Seigneur Dieu. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais avec vous explorer un peu une facette de l'être humain. Une facette avec laquelle on a toujours besoin de Dieu à tout moment de notre vie. Une facette qui est peut-être parmi tant d'autres, mais qui est très destructive. Puis qui part du cœur de l'homme. Parce qu'au début, je voulais appeler le message « la convoitise de l'œil ». Mais j'ai remarqué en travaillant ça que la convoitise de l'œil, ça part du cœur. Fait que c'est vraiment le cœur de l'homme qu'il faut aller regarder puis pour se rendre compte que c'est vraiment destructif de convoiter avec nos yeux. Quand on dit convoiter, des fois, c'est parce que on peut dire « je trouve quelque chose de beau ». Mais trouver beau, si on va plus loin que ça, si on l'aime, si on le désire, si on le veut, puis là, on le convoite. Puis là, je le veux, puis il n'y a plus rien d'autre qui existe que ça. Puis ça arrive souvent quand c'est quelque chose d'interdit. Quand c'est quelque chose qui n'est pas accessible, ou quelque chose qui n'est pas à toi, ou quelque chose qui est chez le voisin, tu le convoites, tu le désires, tu le veux. Si on regarde un peu la définition de la convoitise, c'est un désir extrême ou immodéré de posséder quelque chose. Ça veut dire qu'immodéré, ça n'a plus de sens. Là. C'est comme trop. Alors, ça peut être la cupidité, le désir excessif du gain, de gagner de l'argent, de faire de l'argent. Je vais en refaire encore plus. T'sais. Souvent, ça finit mal. Hein. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'aura jamais de tentation à surmonter au-delà de nos capacités. Dans 1 Corinthiens 10, excusez, 10, 13, il y en a quelques-uns. Ça nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Quand on regarde ça, ça nous dit qu'il va y avoir des tentations, mais il nous fournit un moyen de s'en sortir. Mais c'est à nous aussi d'aller vers Dieu pour aller chercher ce moyen-là, parce que le moyen, il nous l'offre. En d'autres mots, Paul, là, quand il nous dit ça, là, il nous dit que chaque chrétien mène une guerre. Tu sais, c'est pas juste moi qui est tout seul dans mon coin et qui a une guerre entre moi et ma chair. Puis tout le monde, chaque chrétien, vit une guerre dans le monde entier. Ce n'est pas une épreuve spéciale qui est ciblée pour une personne en particulier, c'est tout le monde qui vit ça. Puis aujourd'hui, je vais regarder avec vous un récit dans la Bible que plusieurs connaissent sûrement, puis qui nous apprend vraiment le processus du péché de la convoitise. Puis que c'est sûr que dans les récits de la Bible, on regarde ça, des histoires, puis on se dit « Ouais, mais ça fait plusieurs années que ça a été écrit, ça, là, tout ça, mais... » Si on regarde ça, c'est quasiment du copier-coller ce qu'on vit aujourd'hui. On peut le mettre dans nos vies à tout moment. Puis quand on regarde l'histoire qu'on va lire aujourd'hui, c'est dans Samuel 11. Excusez. Puis c'est sûr que c'est une histoire qui est assez, assez spéciale. Ça a brassé pas mal dans cette histoire-là. Puis si ça se passerait aujourd'hui, ben je suis sûr que TVA serait là pour prendre les captures d'images puis tout ce qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup de récits dans la Bible quand on s'arrête à réfléchir, comment est-ce que c'était quelque chose. Là. Mais on a des perles à aller chercher de tout ça pour dans nos vies, pour pouvoir fonctionner de la meilleure manière possible. Si on commence à lire dans 2 Samuel 11, verset 1, ça nous dit l'année suivante, à l'époque où les rois partaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël semer la dévastation chez les Ammonites et faire le siège à Rabba. Quant à lui, il resta à Jérusalem. Si on regarde, si on s'arrête là, c'est notre première étape. Le roi David, il aurait dû être à la guerre. Il n'était pas à la guerre. Il aurait dû être à la guerre, mais il était resté dans son confort. Ça a été sa première erreur. Souvent, dans nos vies, on devrait être à des places. Oh, ben, on est dans des places qu'on ne devrait pas être. Des fois, c'est notre première erreur. Si on continue dans le verset 2, ça nous dit « Un soir, David se leva de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut de là une femme qui s'y baignait et qui était très belle. » Fait que là, on se souvient que David, il était là où ce qu'il ne devrait pas être. Il voit une femme qui est très belle. David, il est concentré sur ses propres désirs en ce moment. T'sais, il est vraiment là, c'est moi. Là. Il est supposé être à la guerre, mais il n'est pas été. Il est resté chez eux dans son confort. Il regarde avec ses yeux, il voit une belle femme, il a désir. Mais c'est comme je disais tantôt, si ça aurait arrêté là, il aurait vu une belle femme, il n'aurait pas désiré, ça aurait été différent. Il aurait pu le voir, une belle femme, dire « Wow, une belle femme, ça a été fini, il n'aurait pas ça d'autre chose. » Mais non, il l'a vu, il l'a convoité, il l'a désiré. David fit demander au verset 3. « Qui est cette femme? » Et on lui dit, « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam et femme d'Uri le Hittite? » Quand on voit au verset 3, il a demandé c'était qui la femme. Il l'a trouvée belle, il l'a désirée, il a demandé c'était qui. On voit qu'il flirte avec sa convoitise, il joue avec ça. Puis ça, c'est dangereux de jouer avec la convoitise. On s'en rend pas compte, des fois c'est un jeu qui est dangereux, mais on perd tout le temps ce jeu-là, on n'est jamais gagnant. Au verset 4, si on continue, David nous dit rien. David envoya alors des messagers la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle alors qu'elle venait de se purifier après ses règles. Puis elle retourna chez elle. Cette femme tomba enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Il a péché volontairement. On voit vraiment l'évolution de son péché à David. Puis ils nous disent qu'elle venait de se purifier de ses règles. C'est juste pour dire que c'était vraiment David, que ça ne pouvait pas être autrement que ça, l'enfant qu'elle avait. Mais on voit l'évolution de son péché. Au verset 6, on continue. David fit dire à Joab, « Envoie-moi Uri le Hittite. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit vers David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, du peuple et de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends chez toi et prends un moment de détente. » Uri sortit du palais royal, suivi d'un cadeau du roi. Mais il se coucha à la porte du palais royal avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit pas chez lui. On en informa David en lui disant, « Uri n'est pas descendu chez lui. » David dit à Uri, « N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu chez toi? » Parce que David, il voulait qu'il aille coucher avec sa femme pour camoufler son péché. Il a continué, dans le fond, à vouloir camoufler son péché, mais en voulant tromper. Il a voulu continuer, puis il a trompé les... Mais ça n'a pas marché. Fait que si on continue, il l'a fait tuer pour camoufler son péché. On va arrêter là, je pense. C'est long un peu. Je ne sais pas si... Non, c'est pas long un peu? On va le finir d'abord. On va finir jusqu'à 15. Ça se peut que j'allais jusqu'à 15. Uri lui dit, il répondit, l'Arche de l'Alliance, ainsi qu'Israël et Juda, habitent sous des tentes. Mon Seigneur Joab et les serviteurs de mon Seigneur campent en rase campagne, et moi, je rentrerai chez moi pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai pas cela. Ça dit qu'il était mal barré, là, David. Ça ne marchait pas pendant toute son affaire. David dit à Uri, reste ici aujourd'hui encore et demain, je te laisserai repartir. » Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire, et sa présence, en sa présence, et il l'enivra le soir. Uri sortit pour s'étendre sur son lit avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit pas chez lui. Fait que David, il a essayé de le saouler pour qu'il aille vraiment coucher avec sa femme. Ça n'a pas marché encore. Tu sais, il essaye, mais ça ne marche pas. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et il lui fit parvenir par l'intermédiaire d'Uri. Il écrivit dans cette lettre « Place Uri au plus fort du combat, puis reculez derrière lui afin qu'il soit frappé et meure. » Fait qu'il a été jusqu'à essayer, justement, qu'il couche avec sa femme pour camoufler son péché, mais ça n'a pas marché, fait qu'il s'est organisé pour le faire tuer. Puis si on finit avec le verset 16 et 17, ça dit « Au cours du siège de la ville, Joab plaça Uri à un endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les habitants de la ville firent une sortie et livrèrent combat à Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple. Parmi les serviteurs de David, Uri le Hittite fut lui aussi tué. » Il fit tuer pour couvrir son péché. Puis quand on continue à lire les versets, on voit les conséquences de son péché. Même s'il s'est repenti, il y a eu des conséquences après ça qui ont continué dans la vie de David. Parce qu'il y a toujours des conséquences. C'est pour ça que quand on regarde le preview du film, il disait au début, ça touche juste moi, non. Quand on commet le péché, quand on va dans notre convoitise, ça touche les gens autour de nous parce qu'il y a des conséquences qui reviennent. Même si on a le pardon, même si c'est pardonné, il y a des conséquences qui sont physiques qui restent là, qu'il faut vivre avec. Mais ce que je trouve vraiment capoté, c'est que le roi David, malgré sa richesse, malgré tout ce qu'il représente, sa puissance, tout ça, il combattait quand même avec sa propre convoitise, comme tout le monde. Avec son cœur, lui, sa convoitise, il combattait quand même avec ça. C'est souvent... on pourrait dire hypocrite. Puis même des fois, on s'en rend même pas compte. Quand on flirte avec justement le péché, quand on flirte avec son convoitise, c'est comme si on s'en rend pas compte puis on se laisse embarquer dans ça. J'avais l'histoire de la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. Ça nous ressemble souvent, ça, quand on est dans le péché, parce que souvent, on s'en rend pas compte puis on est dedans. Puis la grenouille, elle, ils l'ont mis dans une marmite avec de l'eau tempérée. Fait qu'elle était bien, la petite grenouille. Ça nous représente la grenouille, puis la marmite, c'est le péché. Puis des fois, on est bien dans notre péché, on s'en rend pas compte, mais c'est juste... C'est pas si pire, tu sais. Puis quand on se compare, on a des bien pires que nous autres. Puis, tu sais, la grenouille, elle s'aperçoit de rien. Elle est juste bien. Puis tranquillement, elle allume le feu en dessous de la marmite. L'eau commence à monter. La chaleur, pas l'eau, la chaleur monte dans la température de l'eau. Puis la grenouille, elle continue à nager, puis elle est juste bien. Plus que la chaleur monte, plus qu'à un moment donné, la grenouille, elle s'affaiblit. Elle est plus relaxe. Mais elle est encore bien. L'eau est vraiment chaude, mais ce n'est pas désagréable. Elle vient. Mais quand la température continue à monter jusqu'au moment où la grenouille, elle va cuire, il est trop tard. Elle ne peut même plus sortir du chaudron. Puis c'est souvent ça qu'on vit, nous autres, dans nos vies, puisqu'on se laisse embarquer dans ça, dans notre convoitise. Puis on s'en rend tellement pas compte qu'à un moment donné, il est trop tard, puis on est dedans. Quand on est dedans, on peut plus sortir. Mais si on aurait pris la grenouille puis on l'aurait mis dans l'eau bouillante, elle aurait donné un coup de patte puis elle aurait sacré le canada de l'air. C'est bien trop chaud pour moi. Mais juste le fait qu'elle s'est habituée tranquillement. Souvent, des fois, dans nos vies, on garde des choses puis on s'habitue puis on vit avec ces choses-là, mais on s'en rend pas compte, mais ça nous amène. Ça nous amène vers quelque chose de dangereux. Puis c'est ça, l'expérience, elle nous montre que le changement, il s'effectue d'une manière lente. On s'en rend pas compte. Puis ça, on peut prendre ça comme exemple, justement, la grenouille. Ça, je l'ai dit, ça. Excusez. T'es allé plus vite que moi. C'est ça. C'est l'histoire de la grenouille. Ça traduit le phénomène d'habituation et de passivité, dans un environnement qui se dégrade progressivement au point de mettre sa propre vie en péril. Ça veut dire que tranquillement, pas vite, on ne s'en rend pas compte, puis notre vie peut être en danger à cause de ça. On ne fera pas le test avec la grenouille le matin. Ça peut être très controversé. Mais c'est quand même une belle image que je trouve qui est le fun qu'on peut apprendre de ça. Puis moi, j'ai sorti les trois R. Je pense que je les ai marqués les trois R. Hein? Trois R que je trouvais très intéressant, c'est reconnaître, résister puis retirer. Reconnaître dans nos vies, c'est quoi qui peut justement nous tirer vers le bas, qui peut être dangereux. Résister à ça, à cette chose-là, parce que c'est en nous autres, même si, comme je disais tantôt, c'est ah, des fois on met ça sur l'ennemi, c'est l'ennemi qui nous tente. Non, c'est nous autres, c'est dans notre cœur, c'est notre chair, c'est dans notre profond. Hein. Puis retirer ça, parce que Dieu, il veut qu'on retire ça. Quand on regarde dans le chapitre de Matthieu, Jésus nous dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. » Jésus, il veut nous faire savoir par cette image-là que l'adultère ou tous les autres péchés, ça prend racine dans notre vie intérieure. Puis qu'au lieu de se concentrer simplement sur les effets qui sont physiques extérieurs, on devrait plutôt se soucier puis de regarder de ce que nos yeux regardent, puis de regarder dans notre cœur. Parce que la convoitise, ça part de là. Excusez. Proverbe 4, 23, je ne sais pas si je l'ai mis, lui. Hein? C'était bon, oui, je l'ai mis. Hein? C'est bon, ça. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui viennent les sources de vie. Autant que ça peut être les sources de vie, autant que ça peut être une source de mort. C'est ça qui donne notre cœur. Puis, j'avais une image, je l'ai oublié de l'amener, j'ai essayé de la rechercher, parce que quand que les enfants étaient plus jeunes, on regardait en masse, Man versus Wild, c'est comme Bear Grylls. Puis lui, il était dans une situation que il y avait un ruisseau qui coulait, puis il faisait comme tester l'eau, je sais pas trop, puis il voyait que l'eau était vraiment pas bonne, mais elle paraissait belle, elle paraissait bonne. Mais plus haut dans la rivière, il y avait un animal de mort en train de se décomposer dans la rivière. Ça scrapait tout le reste de l'eau. Puis... Si je trouvais que c'était une belle image quand même, je ne l'ai pas trouvé, j'aurais aimé ça trouver, mais ça reste que c'est une très belle image que dans nos vies, des fois, on regarde peut-être un animal mort. Ça paraît super beau après, mais l'eau, c'est toxique, là, c'est dangereux. Puis on regarde des choses toxiques dans nos vies des fois qui ne paraissent pas, mais qui peuvent être très dangereux à long terme. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est dans le cœur de l'homme qui sortent, comme je disais au début, l'image, je ne pense pas que je l'ai mis celle-là. Non. Et l'orgueil, il y a plein de choses. Là. Il y avait une image avec le cœur de l'homme, avec l'orgueil, la calomnie, les vols, les regards envieux, les meurtres, la folie, la méchanceté, les mauvaises pensées, la fraude. En tout cas, il y en a une lignée. Mais pourquoi qu'on n'irait pas à place puiser dans le cœur de Dieu? Puis dans le cœur de Dieu, ça va être de l'humilité, de la générosité, de la louange, de la douceur, de la gentillesse, de la délicatesse. Puis on peut en rajouter. Puis pourquoi qu'on ne ferait pas un changement de cœur? C'est ça que Dieu veut qu'on fasse, dans le fond. Puis il veut qu'on mette plus de Dieu dans nos vies, puis moins de nous autres, moins de notre chair. Ça me fait penser à l'histoire, quel chien qu'on va nourrir? Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, les combats de chiens qu'ils faisaient, puis que... Il savait déjà d'avance quel chien qu'il allait gagner, parce que c'était le chien qui nourrissait. Puis c'est le chien qui nourrissait qui gagnait, celui qui est le plus en forme. Les autres, qui avaient faim, ils étaient faibles, bien, ils mouraient. Dans nos vies, c'est quoi qu'on veut nourrir? C'est quoi qu'on veut qui surpasse puis qui gagne, dans le fond, sur l'autre? C'est la même chose. Quel chien? C'est quelque chose qu'on veut nourrir dans nos vies. Quand on réalise que notre œil droit est pour nous une occasion de chute, est-ce qu'on devrait l'arracher et le jeter en dehors de nous? Jésus, je crois vraiment qu'il parle d'une manière symbolique dans ce verset-là. Je ne pense pas que c'est vraiment physique de le faire. Ça pourrait être dangereux pour la santé. Mais il nous enseigne vraiment à enlever de nos vies tout ce qui peut constituer pour nous une occasion de chute. tout ce qu'il peut pour nous. Puis on le sait, on n'a pas besoin là, de le dire tout haut. Là. Si on s'arrête à y penser 2 secondes, on le sait, on a des choses, on a des flashs dans nos vies. Je sais que ça, c'est pas, pour moi, c'est dangereux. Ça. Puis on n'a pas les mêmes problématiques. Dans chacun de nous, on a des faiblesses différentes. Mais il nous enseigne à justement enlever ce qui peut être une occasion de chute pour nous. Puis tout ce qui pousse, dans le fond, notre cœur à pécher. Il faut s'en séparer. Puis il donne l'exemple de la main et l'œil, dans le fond, pour nous permettre de réfléchir dans tous les domaines de nos vies. C'est quoi le domaine de nos vies qui peut, pour nous, être une occasion de chute? Ça peut être nos passe-temps, ça peut être des mauvaises habitudes, des plaisirs, ça peut être même des bonnes choses, des fois, qui pour nous, ça peut être dangereux, ou des relations qui sont toxiques. Mais Jésus, il veut savoir si on est tellement attaché à ces choses-là. Qu'on serait prête à justement comment je pourrais expliquer ça un peu? On est tellement attaché à ces choses-là qu'on serait prête à justement le garder, puis ça va nous corrompre. C'est comme un peu l'animal mort. Si on le garderait, mais en vrai, on ne voudrait pas le garder, cet animal mort-là. Mais dans nos vies, des fois, on garde des animaux morts. C'est juste que ça pue pas. Mais. Ça finit par puer pareil, c'est vrai. Jésus, justement, non, c'est ça que je l'ai dit. Sommes-nous prêts à tout abandonner? Comme le chant qu'on a chanté tantôt. Sommes-nous prêts à tout abandonner? Des fois, ça a de l'air facile de même de dire, ah oui, je m'abandonne. Mais quand on arrive sur le fait accompli de dire, gars, ça, il faut que j'abandonne ça dans ma vie, il faut que je le tasse. Parce que je sais que pour moi, c'est dangereux. C'est pas évident. Mais Dieu, il veut qu'on s'abandonne puis qu'on lui abandonne des choses pour qu'on puisse être libre. Puis qu'on puisse vraiment le connaître intimement, puis qu'on puisse pouvoir posséder sa puissance à lui, de pouvoir, si on regarde dans Jacques, je pense pas que je l'ai mis, lui. Hein? Non. Mais ça nous dit, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est vraiment nous, en dedans de nous, c'est là que ça prend forme, c'est là que ça prend racine. Notre pire ennemi, ce n'est pas le diable et sa tentation, ni le monde et ses convoitises. Notre pire ennemi, l'ennemi numéro un, l'ennemi à abattre, si on veut, c'est nous. C'est précisément nous, notre vieille nature, notre chair. Est-ce qu'on est prêt à jouer notre destinée pour une vulgaire envie ou une convoitise insignifiante pour l'instant d'un moment? Tu sais, quand tu arrives, tu dis ah, « ça, j'aimerais ça l'avoir, je le veux, je le désire. » Comment est-ce qu'on regarde autour de nous aujourd'hui? Comment est-ce qu'il y a de couples qui se brisent? C'est incroyable, là, c'est quasiment rendu. Hein? 90% de la population qui se sépare. Mais c'est triste de voir ça. Parce que les gens arrivent, « Ah, c'est plus beau ailleurs, je m'en vais ailleurs. » Mais des fois, on agit de même dans nos vies pour plein de choses. Mais la Bible nous met en garde de ne pas justement flirter avec les désirs. La séduction, puis tout ça, de ne pas flirter avec ça, c'est pas un jeu. Il faut être capable de dire non. Parce que quand on flirte avec la passion, justement, puis nos désirs, puis tout ça, puis on le sait que notre chair, elle automatiquement, elle se connecte avec le monde du péché, avec l'univers du péché. Notre chair, elle est facile à aller à ça. On ne doit jamais jouer avec ces désirs-là. Il y a des jeux interdits sur le plan spirituel. Quand on joue avec le péché, on perd toujours. On perd toujours. J'aime bien l'image quand les Inuits ils veulent se débarrasser d'un loup. Là. C'est ça que j'avais amené l'autre jour. Puis, je ne sais pas si je l'ai amené ici, je ne pense pas. En tout cas. Puis ils prennent un couteau, ils le trempent dans le sang puis ils le font geler. Ils leur trempent dans le sang, ils le font geler, puis ils font ça plusieurs fois comme un gros popsicle de sang. Puis ils mettent ça dans le champ. Puis là, le loup, lui, va aller licher le sang. Puis là, il va continuer à licher le sang, puis là, son goût du sang décolle, puis là, il va licher, puis il va continuer à licher le couteau. Il liche le couteau, il liche plus le sang, il liche le couteau, puis c'est son propre sang qui se mélange. Puis il finit par mourir à force de licher le couteau de sang. Puis je trouve que c'est vraiment une belle image parce que dans nos vies, des fois, c'est ça qui arrive. Puis tu sais, c'est sûr que dans nos vies, peut-être que c'est pas du sang qui va être sur le couteau, mais ça va être n'importe quoi d'autre qui va nous attirer. Puis on s'en rendra pas compte, puis à un moment donné, ça va être nos propres désirs qui va prendre le dessus. Mais les conséquences, si on joue avec le péché, les conséquences sont toujours dramatiques. Puis on va toujours être disqualifié. On va toujours perdre. En tout cas, on ne gagne jamais. Ça, c'est sûr. Il y a des grands dangers à flirter avec la tentation, à flirter avec la convoitise. Soyons vigilants et préservons-nous de ce qui peut participer à allumer en nous le feu de la tentation. Parce qu'une fois que c'est allumé, ce feu-là, ce n'est pas évident de l'éteindre. Ce n'est pas évident de faire retour en arrière. Quand on regarde dans l'histoire de David au début, il est embarqué dans ça, puis ça a été un qui a amené l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis il s'est rendu loin en tabarnouche dans ça. Parce que notre chair a juste le pouvoir qu'on veut... Notre chair a juste le pouvoir qu'on veut... Qu'on veut bien lui donner. Je bloque tout le temps, elle veut. Mais c'est nous qui donnons ce pouvoir-là à notre chair. Le diable et le monde ne peuvent rien contre nous si on marche main dans la main avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Si jour après jour, on remet notre chair à la croix, où Jésus a tout pris, il a tout pris à la croix, puis que c'est seulement nous qui peut le reprendre. Souvent, on remet des choses à la croix, puis le lendemain, on repasse puis on le reprend. Mais il faut le laisser là. Puis des fois, ça peut être épeurant aussi de justement d'abandonner quelque chose à Dieu. Mais il ne faut pas avoir peur de faire une coupure avec ce que pour nous, ça peut être une occasion de chute. On le prend, on l'abandonne. Mais des fois, ça peut être comme déstabilisant parce que c'est une sécurité d'avoir ça dans nos vies. Mais si on regarde dans Proverbe 6, 27, ça nous dit « Peut-on mettre le feu dans sa poche sans que le vêtement s'enflamme? Peut-on marcher sur des braises sans se brûler les pieds? De même, celui qui court après la femme de son prochain ne demeurera pas indemne. S'il la touche, il ne saura rester impuni. » C'est sûr qu'on va se brûler si on joue avec le feu. Des fois, le verset, c'est tellement clair, c'est tellement... Tu sais, tu pourrais pas l'expliquer mieux que ça. Puis dans Luc 12, ça nous dit « Tout ce qui est caché sera découvert. Tout ce qui est secret sera connu. » Même si on veut le cacher, même si on veut le garder, notre petit précieux caché, il finit toujours par sortir, il finit toujours par éclore un jour ou l'autre. Des fois, ça peut prendre plus de temps, mais ça fait plus de dégâts encore. Mais si aujourd'hui, on a peut-être des problèmes dans nos vies à cause de nos péchés, à cause de nos erreurs, à cause des mauvais choix qu'on a pu faire, il faut demander à Dieu de nous pardonner, puis de remettre les choses en ordre. Puis comme on a chanté tantôt, hein, de s'abandonner à lui, puis de demander le courage de quitter notre rivage pour aller dans ce qu'il a vu pour nous autres, des belles choses pour nous. Puis c'est sûr que Dieu, il est capable. Il n'y a aucune situation qui est trop. Non. Puis Dieu, il n'en a pas fini avec nous. Dieu, il n'en a pas fini avec nous. Laissons l'amour surnaturel de Dieu agir dans nos cœurs. Dieu, il pardonne puis il guérit. Fait que c'est ça que j'avais à vous amener aujourd'hui. On va finir en prière. Puis c'est vraiment juste de cibler les choses, de ne pas oublier les trois R peut-être aussi, qui étaient de... C'est quoi nos trois R? Hein, c'est bon. Les trois R, reconnaître, résister, retirer. Ou ça peut être comme un peu comme l'histoire que j'avais de l'araignée qui est dans le lit. Hein. Tu vois une araignée dans ton lit le soir, tu dis « Ah, c'est pas grave, je la ramasserai demain. » Non. Trouve l'araignée, puis... Tue l'araignée. Bien, c'est ça qu'on devrait faire dans nos vies avec le péché. C'est, gars, cherche l'araignée, trouve l'araignée, puis tue l'araignée. Mais en tout cas, c'est pour moi. Il y en a peut-être qui sont bien que les araignées. Moi, c'est pas mon trip, mais... mais c'est ça. Mais c'est ça. C'est de toujours se rappeler que ça peut être dangereux. Seigneur, mon Dieu, je te remercie. Je te remercie pour tous les avertissements que tu me donnes, pour toutes les fois que tu me rappelles à l'ordre. Aide-moi à utiliser justement les trois R, reconnaître, résister et retirer, pour toutes les tentations et les attraits de ce monde. Comme le roi David, il nous dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. » Pourquoi ne pas faire de ce verset notre prière personnelle et quotidienne? Laissons le Seigneur dévoiler ce qu'il y a dans nos cœurs, dans nos pensées. Puis qu'on puisse se garder pur, puis connecté à lui, afin de porter sa lumière, puis d'avoir sa saveur à lui. Toujours plus de toi, mon Dieu, moins de moi. Qu'est-ce que je vais nourrir dans ma vie? Pour que je puisse briller dans ce monde, où est-ce que tu m'as placé, Seigneur Dieu? Dans ma famille, pour que je puisse être un reflet de toi, mon Dieu. Aujourd'hui, dans ma vie, qu'est-ce qui m'empêcherait de vivre pleinement les bénédictions de Dieu? Est-ce que j'ai des relations avec des mauvaises personnes qui prennent tout mon temps, ou toute mon attention, ou toute mon énergie? Est-ce que j'ai des habitudes qui me font chuter, puis je rechute encore? Demandons à Dieu de nous aider à éliminer ces choses-là de notre vie. Et soyons prêts à nous séparer de toutes ces choses et de toutes, peut-être, ces personnes qui sont peut-être une occasion de chute pour nous autres. Et c'est peut-être ça qui nous empêche de servir Dieu de tout notre cœur, de tout notre temps, de toute notre passion. Puis Jésus, de toute manière, aucun de mes péchés sont cachés devant toi. Je te demande pardon, mon Dieu, pour toutes les fois, justement, que j'étais ailleurs puis que je voulais rien savoir. Aide-moi, Seigneur, à remettre de l'ordre dans ma vie. Je sais que tu m'aimes, mon Dieu, malgré tout ce que j'ai pu faire, puis que tu me pardonnes. Et montre-moi, Seigneur Dieu, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour être libéré, libéré du péché, libéré des tentations. Je veux te donner ma vie, mon temps, mes capacités. Fais de moi, Seigneur Dieu, un instrument bien accordé pour ta gloire. En ton nom, Seigneur Jésus, je te prie. Amen.